Bonjour tout le monde. Alors, je vais me baser encore sur l'évangile de Jean. Il y en a qui commencent à avoir marre un peu de ça. Mais il y a toujours des choses nouvelles à dire quand on se base sur l'évangile. C'est jamais fini. On ne peut jamais arriver à un point où il n'y a plus rien à recevoir de cet évangile. Parce que l'évangile, comme je dis souvent, je rappelle souvent, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, ça n'est pas seulement une histoire, c'est pas seulement un récit ou une série de récits, c'est la puissance de Dieu. Et on n'est pas sauvé parce qu'on a entendu un message ou parce qu'on a entendu la lecture de l'évangile ou le message de l'évangile. On est sauvé parce que l'évangile lui-même se révèle à nous et agit dans nos vies. C'est ça qui sauve. C'est ça qui fait que quelqu'un peut dire « Je sais que j'étais perdu et que maintenant je suis sauvé. » Au travers du monde, aujourd'hui et tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui sont touchés par l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est extraordinaire de voir l'effet radical. C'est-à-dire que ces personnes-là rentrent dans un endroit où ils entendent l'Évangile d'une manière spirituelle. Et l'Évangile fait une œuvre dans leur vie et ressortent de cet endroit transformés. Combien de gens étaient liés par la toxicomanie, par l'alcoolisme, par des passions et ont instantanément trouvé la délivrance. Ce n'est pas une question de long terme, ce n'est pas une question de suivi de ces personnes pour que finalement ils comprennent l'importance de Dieu. C'est une révélation instantanée, profonde, qui transforme la vie. Et c'est ça dont on a besoin. On a trop souvent tendance à penser qu'on doit manipuler les gens, les amener à croire en Dieu comme nous, de croire au message de la Bible, qu'on doit les façonner, qu'on doit les diriger, les conduire. Mais ce dont on a besoin, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la révélation du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez ce matin que le Saint-Esprit peut se révéler à vous et vous changer radicalement? Si ce n'est pas le cas dans nos vies, eh bien nous sommes perdus. Nous pouvons dire verbalement « je suis sauvé ». Mais ce n'est pas vrai. Le vrai salut, c'est quand on peut dire « je sais qu'un jour, Jésus a changé ma vie. Je sais qu'un jour, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas comprendre entièrement, que je ne peux pas décrire entièrement, mais je sais dans quel état j'étais. Et je sais que ce jour-là, il m'a changé. Et je me suis couché dans un état totalement différent de celui que je connaissais avant. » La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre si on la laisse se manifester. Le problème, c'est qu'on met des choses entre la parole, l'évangile, la puissance de Dieu et nous. On met des choses entre. Ça s'appelle interprétation. C'est l'origine, l'étymologie du mot interpréter. On interprète la parole. On est en train de mettre des choses entre cette parole et nous, notre culture, nos croyances, notre religion, notre intelligence, nos problèmes. Et cette parole qui est puissante et efficace, comme nous dit Hébreux 4, cette parole qui peut transformer nos vies ne le fait pas, parce qu'entre cette parole et nous, il y a l'interprétation, il y a les choses que l'on place entre. Et j'aimerais vous demander ce matin s'il y a des choses qui sont entre la parole de Dieu et vous. Si la parole de Dieu ne vous touche pas ce matin, eh bien c'est qu'il y a quelque chose entre. Ésaïe 59 commence en disant « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui établissent une barrière, une muraille entre Dieu et vous. » Parce que c'est ça le péché, c'est l'interprétation. Pas l'interprétation dans le sens général du terme, mais c'est ce qu'on place entre Dieu et nous qui devient ce qui nous empêche d'avoir l'efficacité de la parole. Et j'aimerais qu'on regarde encore dans l'évangile de Jean, à plusieurs endroits, les interprétations. Alors vous allez dire, tu triches, tu as déjà prêché sur l'évangile de Jean en longitudinal et tu ressors une prédication. Non, non, non. Vous le faites sur un thème, tout l'évangile de Jean, et ensuite vous trouvez un autre thème et vous faites tout l'évangile de Jean là-dessus. Vous pouvez changer d'évangile, vous avez le droit, évidemment. Mais l'évangile de Jean est très clair parce qu'il consacre un chapitre sur un thème très clair. Et dans l'évangile de Luc, par exemple, dans un chapitre, vous avez plein d'histoires. Et c'est plus facile à retenir dans Jean. Mais Jean commence aussi l'évangile de Jean par la description de la parole. La parole était Dieu. Donc tout ce qui est interprétation de la parole, tout ce qui se place entre la parole et nous, c'est quelque chose qui se place entre Dieu et nous, que Ésaïe décrit comme étant le péché. Il y a des gens, mon père me disait, il y a des gens qui, quand ils entendent la parole de Dieu, ils sont touchés instantanément. Ils ne l'avaient pas entendu avant, ils l'entendent. Je parle de la puissance de Dieu, ils sont touchés instantanément. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui ne sentent rien. Il n'y a aucun effet. Et ça, c'est parce qu'il y a une grosse interprétation. Il y a quelque chose qui se passe entre la parole et celui qui la reçoit. Dans Jean chapitre 2, donc les Jean chapitre 1 se consacre essentiellement à la définition de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y avait pas de séparation entre la parole et Dieu, bien sûr, parce que la parole, elle est Dieu. Absolument aucune séparation. Mais dans Jean chapitre 2, et si vous suivez, et mardi soir ça sera le cas, et c'est par Zoom, si vous suivez les études bibliques avec Daniel Scherrer, eh bien il est dans Jean. Et il ne peut rien dire là tout de suite parce qu'il n'est pas là. Il est en Alsace et donc il ne peut pas m'en vouloir tout de suite. Mais je sais qu'il me pardonnera d'avoir parlé sur l'évangile de Jean aussi ce matin. Dans le chapitre 2, c'est les noces de Cana en Galilée. Et sa mère, ils sont à ce mariage, c'était la dernière étude biblique avec Daniel, et à ce mariage, il manque du vin. Et Marie, la mère de Jésus, vient voir Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce qui nous sépare? Quelle est ton interprétation? Et on trouve que dans l'évangile de Jean, il y a une description très forte de ce qui peut nous séparer de la parole de Dieu, de ce qui peut nous séparer de Dieu. Pour aller vite, je vais passer certains récits, mais vous pouvez retracer l'évangile de Jean chez vous et trouver vous-même ce que vous auriez pu dire mieux que moi ici ce matin. Mais dans Jean chapitre 2, je crois que c'est dans le chapitre 2, je ne veux pas mélanger, mais aussi c'est le chapitre 2, il y a aussi le récit de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Dans le temple qui était l'endroit où Dieu se trouvait dans l'ancienne alliance, eh bien il y avait du commerce, il y avait des échanges, il y avait des ventes qui étaient bonnes, c'était pour les sacrifices. C'était pour que les gens qui allaient offrir des sacrifices au temple puissent acheter sur place. Il y avait donc de la religion derrière tout ça. Mais Jésus ne supportait pas ça. Et si dans ta vie il y a de la religion, si dans ta vie il y a des croyances, eh bien ces croyances, cette religion, quelle qu'elle soit, même si c'est des croyances évangéliques, elles sont un obstacle pour la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas agir si tu as des croyances. Elle ne peut pas agir. Les gens qui sont touchés par la parole de Dieu, ce sont des gens qui n'ont rien, qui sont perdus. La religion les a déçus, la religion les a insatisfaits, les a rendus insatisfaits. Et ils sont dans le désespoir, ils comprennent qu'ils sont misérables, qu'aucune religion, aucune croyance humaine peut soulager leur esprit. C'est ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu qui agit. Mais si tu as des religions, si tu as des bonnes pratiques, si tu as une bonne éducation et que tu mets ça en avant, ça va te séparer de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas agir parce qu'il y a de l'interprétation. La parole de Dieu ne peut pas faire son effet parce qu'il y a quelque chose qui te sépare de cette parole. Alors laissez ce matin vos religions, quelles qu'elles soient. Laissez vos croyances. Si vous êtes athée, vous êtes religieux. Parce que l'athéisme, c'est une position vis-à-vis de Dieu, comme le christianisme, le judaïsme, l'islam et les autres religions sont une position vis-à-vis de Dieu. Venez déposer votre athéisme, votre christianisme. Venez le déposer au pied de la croix. C'est la fin de l'évangile de Jean, la croix, mais c'est l'accomplissement. Quand Jésus, sur la croix, a dit « Tout est accompli », il a donné aux hommes et aux femmes qui l'acceptent le pouvoir d'être enfants de Dieu, comme c'est dit dans le chapitre 1. Il a donné le pouvoir de venir à la croix du calvaire d'une manière spirituelle et dire « Jésus, tu as été crucifié sur la croix et il y a chez moi de l'interprétation et je veux que cette interprétation soit clouée sur la croix. » pour que je sois libre, pour que je sois sauvé. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Jésus a chassé les vendeurs du temple d'une manière radicale. Et vous savez que ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, notamment, et 2 Corinthiens 6 aussi, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans vos vies, il y a des choses qui vous séparent des croyances, des pratiques qui vous séparent de Dieu. Et si cette question n'est pas réglée, il y a un mur entre Dieu et vous, il y a une interprétation. Vous avez besoin, j'ai besoin d'être sauvé de ça ce matin. Il n'y a aucune espérance, il n'y a aucun espoir de salut si nous avons des choses qui nous séparent de Dieu. De manière extraordinaire, Jésus a chassé les vendeurs du temple, mais il était le temple d'une manière spirituelle, puisqu'il a dit que détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et il parlait du temple de son corps. Dans Jean chapitre 3, vous avez l'entretien avec Nicodème et vous savez que Nicodème avait le raisonnement, l'interprétation qui l'empêchait de recevoir la parole de Dieu directement. Jésus-Christ lui a dit qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau. Et il a dit, mais enfin, c'est pas raisonnable. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Il ne comprenait rien. Parce qu'il y avait la raison. Et les Français ont établi comme religion nationale la raison. À la Révolution française, on a mis sur l'autel la raison, celle qui représentait la raison, à la place de Dieu. La raison doit être crucifiée aussi à la croix. Et c'est comme ça que vous deviendrez raisonnable. C'est comme ça que la folie des hommes est crucifiée. Parce que ce qu'ils appellent raison est souvent de la folie. Alors, on n'a pas le temps de donner des exemples de ça, mais vous en avez malheureusement quotidiennement sur les informations. Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi le monde, malgré tous les efforts, il faut être extraordinairement courageux pour être président, pour être ministre, parce que vous allez déployer tous les efforts, et c'est le cas, pour de l'échec. Pourquoi ça échoue? Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que la raison est humaine et celle-là n'a pas été crucifiée. Nicodème avait besoin d'une révélation profonde. Il avait besoin que son interprétation, son intelligence des choses soit clouée à la croix avec Jésus pour qu'il puisse comprendre ce que ça veut dire que naître de nouveau. Pour qu'il puisse dire avec ces mots, on n'utilisera peut-être pas le terme « naître de nouveau », mais on utilisera des termes semblables pour décrire ce qui nous est arrivé. Dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre la Samaritaine. Et cette Samaritaine, elle a soif, ou plutôt elle doit chercher l'eau pour la famille, comme tous les jours. Et elle est aussi, par sa culture, elle est dirigée dans une interprétation culturelle particulière. Elle rencontre un homme. Et sur le bord des puits, il n'y avait pas des hommes. C'était les femmes qui cherchaient l'eau. C'est trop lourd pour les hommes de porter l'eau. Il fallait donc que ce soit les femmes qui les portent. Et donc déjà, il y a un choc culturel, n'est-ce pas, comme on a mentionné tout à l'heure. Il y a un homme qui se trouve sur le bord du puits. Ça n'arrivait pas. En plus, elle découvre que c'est un juif, elle est samaritaine, et les samaritains et les juifs n'ont aucune relation. Qu'est-ce qu'il fait là? Elle s'adresse à l'homme Jésus. Elle s'adresse à lui comme étant un juif, donc avec une vraie séparation. Déjà homme-femme, juif en plus, et moi je suis samaritaine. En plus, elle découvre en parlant qu'il est prophète. Ça n'a rien changé de sa vie. Il y a des gens qui disent, pour moi Jésus est un prophète. Ce n'est pas plus extraordinaire que de croire que Jésus était qu'un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Il ne faut pas penser que vous êtes bien parce que vous avez dit que vous acceptez que c'est un prophète. Mais quand elle a eu la révélation, et c'est ça dont il est question, quand Jésus a enlevé l'interprétation, quand Jésus a levé cette interprétation dans sa vie, quand elle a découvert qu'il était la parole de vie, elle a laissé sa cruche. Elle a laissé son occupation. Elle est retournée vers le village. Elle a dit, j'ai rencontré l'homme. Il a fallu que Jésus, d'une manière miraculeuse, puisse la sauver. Et le salut chez elle, c'était la destruction de son interprétation. Et c'est là où il y a la rencontre véritable avec le Christ. C'est pas est-ce que vous croyez au Christ, est-ce qu'après avoir réfléchi, vous adhérez plutôt à l'enseignement qui est donné dans une église ou une autre? Est-ce que c'est parce que vous pensez que oui, c'est mieux, comme le pari de Blaise Pascal, c'est mieux, il démontre que c'est mieux de croire que de ne pas croire. Mais Blaise Pascal lui-même, après avoir fait cette démonstration-là, qui était le seul recours qu'il avait à l'époque, c'était la raison philosophique il a fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ qu'il décrit en une page qui a bouleversé sa vie. Et je suis sûr qu'après cette rencontre avec Jésus-Christ, il n'enseignait plus que c'était mieux de croire que de ne pas croire avec le pari de Pascal. Il a enseigné que Jésus se révélait, était son Seigneur. Ça vaut le coup, chercher sur Internet, si vous voulez, le récit de la révélation qu'a reçu Blaise Pascal. Et vous allez retrouver l'Évangile derrière tout ça. Jésus a sauvé cette Samaritaine. Elle était libre. Elle était libre. Il ne lui a pas dit, on va se voir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on va faire un suivi, je vais démonter ce que tu as cru, ce que ton éducation, mais c'est progressif. On dit que si on fait payer cher, je fais référence à certains professionnels, on fait payer cher des entretiens comme ça, on augmente les chances d'amélioration de l'état de la personne. Parce que comme elle paye cher, elle doit se convaincre à elle-même qu'elle va mieux. Seigneur Jésus a proposé gratuitement, non pas une thérapie, mais le salut. Et ça s'appelle le salut. La femme était libre. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez laisser les cruches de votre vie, les activités, les soucis, les préoccupations, et courir, dire ce matin j'ai été délivré, parce que le Saint-Esprit a fait cette œuvre dans ma vie, qui a détruit l'interprétation, ce qui me séparait de Christ, je l'ai rencontré, parce qu'il m'a dit ce que j'ai fait. Elle avait caché des choses, elle n'allait certainement pas dire à un homme, un juif, un prophète, elle n'allait certainement pas lui dire qu'elle avait eu plusieurs mariages qui ont échoué. Il n'y avait aucune raison de lui dire. Mais le Seigneur lui a dit. Et touche-le la question dans votre vie pour laquelle vous avez mis des barrières culturelles, des choses qui sont cachées, des choses que vous avez qui vous séparent de Christ. Il veut le toucher ce matin. Par sa parole. Il n'a rien dit d'extraordinaire, il n'a pas prêché. Il ne s'est pas levé, il a dit « Assieds-toi, je vais te prêcher l'Évangile. » Il a juste agi dans son amour. C'est la même chose pour toi ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à ce qu'il agisse, à ce qu'il te rencontre et à ce que tes interprétations tombent? Dans Jean chapitre 5, il se trouve en présence d'un paralytique. Et j'ai une sympathie profonde pour ce paralytique parce que c'est un loser. Vous savez ce que sont les losers? Ce sont ceux qui perdent dans la vie, qui n'ont pas de chance, ceux qui ont raté. Et on est dans une société élitiste, une société qui pousse vers la réussite et qui méprise ceux qui échouent. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient losers. Si vous êtes un winner, si vous êtes un gagnant, si vous réussissez ce que vous faites, eh bien, j'ai le regret de vous dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour vous. Et vous n'aurez rien, rien de tout de lui, parce que vous êtes gagnant. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu, ce sont des perdants. Ce sont ceux qui disent à Dieu, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu ce que tu m'as donné. Je l'ai perdu. Et j'ai honte. Et cet homme, il avait quelque chose qui le séparait de la foi, qui permettrait de le sauver. C'est que à chaque fois que l'eau s'agitait dans la piscine de Bethsaida, il avait quelqu'un qui allait avant lui. Il y avait quelqu'un entre. Il y avait quelqu'un qui prenait sa place. Et peut-être c'est ça le sentiment que vous avez ce matin, qu'il y a toujours eu quelqu'un qui a été, qui vous a dominé, qui s'est mis devant vous, qui s'est mis entre Dieu et vous peut-être. Eh bien, ce matin, le Seigneur va vous libérer. Vous remarquez quand il a été guéri que les pharisiens sont là, sont venus avec leur interprétation. Nous voulons comprendre, nous voulons avoir une interprétation très claire de ce qui s'est passé. C'est pour ça que les pharisiens de ce genre n'avaient aucune, recevaient aucune bénédiction du Seigneur. Ne croyez pas que Jésus est venu pour les religieux. Ne croyez pas qu'il vous apprécie parce que vous lisez la Bible, parce que vous priez, ou parce que pour le Seigneur vous avez fait des sacrifices. Ne croyez pas que ce matin vous avez un avantage parce que c'était dur de se lever ce matin et de venir ici. Si c'est ça les sacrifices que vous avez pour vous justifier devant Dieu, vous n'aurez aucune justification. Le seul sacrifice qui constitue une justification pour Dieu, c'est celui de Jésus-Christ sur la croix. Et est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix s'est devenue réalité dans ta vie? Est-ce que tu peux dire « Je suis sauvé » ? Je ne pouvais pas le dire pendant des années. Je souffrais quand je voyais que quelqu'un pouvait le déclarer en toute liberté, en toute joie, « Je suis sauvé ». Et moi, je ne pouvais pas. On va voir d'autres personnes là qui pouvaient le dire dans l'évangile de Jean, où l'interprétation est tombée, où il n'y avait pas d'interprétation parce qu'ils étaient en communion avec Christ. À la Samaritaine, il lui a dit que celui qui boirait de l'eau qu'il donnerait n'aurait plus jamais soif. Et il était cette eau vive. Dans Jean chapitre 7, chapitre 8, à Jérusalem, Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ce matin, est-ce que tu as soif de rencontrer Jésus-Christ? Est-ce que tu as le désir de le rencontrer, de le connaître? Ta vie sera transformée. Si tu le veux, eh bien tu le peux. Il peut se révéler à toi. Dans Jean chapitre 6, il y a la multiplication des pains. Là aussi, il y a eu de l'interprétation. Mais Jésus, je vais passer sur ce passage pour passer sur d'autres récits de Jean qui sont plus importants. Mais dans ce récit, Jésus a dit, il ne sait pas seulement qu'il a donné le pain. Il a dit, je suis le pain de vie. Il a dit à la Samaritaine qu'il était cette eau vive. Enfin, il s'est révélé comme étant cette eau vive. C'est pour vous aujourd'hui ce message. C'est pour vous que Jésus dit « Je suis le pain de vie ». C'est pour vous qu'il dit « Je suis cette eau vive qui coulera de votre sein pour que vous puissiez apporter aux autres l'Évangile parce que vous serez l'Évangile ». Vous serez les enfants de Dieu et dans Jean chapitre 1, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et ça veut dire que pour les autres, vous êtes l'Évangile. Vous n'avez pas besoin de donner un Évangile à quelqu'un et de dire « lis-le et on va en reparler dans un mois ». Parce que la personne la lira, c'est bien de lui donner, c'est important. Mais elle lira non pas parce que vous lui avez dit de lire, mais parce que elle a vu chez vous l'Évangile dans votre vie de tous les jours. Et elle veut cela, ou elle veut comprendre pourquoi. Pourquoi vous êtes différent du monde? Pourquoi vous êtes différent dans vos réactions? Dans vos pensées, dans vos décisions. Pourquoi vous êtes transformés? et pourquoi elle, cette personne, ne l'est pas. Dans le chapitre 8, vous avez cette femme accusée d'adultère. Entre elle et la paix de Dieu, il y avait les accusations. Combien de gens ici sont sous l'accusation? Ils peuvent nommer certaines des accusations et d'autres, ils ne peuvent pas les nommer. Ils se sentent coupables. Ils ne peuvent pas le dire pourquoi, mais ils se sentent coupables. La société culpabilise beaucoup certains péchés et pas d'autres. Pour d'autres péchés, on dit que c'est bien. Mais Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si tu te sens accusé pour des choses que tu as faites, le Seigneur te pardonne si tu te repens. Et ces accusations, ces choses qui troublent ta conscience, ces choses qui t'empêchent peut-être de dormir parce qu'elles sont là comme des flèches pointées contre toi, eh bien, le Seigneur les a clouées sur la croix si tu acceptes. Il les a portées sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Est-ce que tu crois au message de la croix? Ou est-ce que tu crois que Jésus, c'est juste qu'il a perdu, il a raté et il a été crucifié? On l'a accusé. Est-ce que tu crois que ce sont les Romains qui l'ont mis sur la croix? Est-ce que tu crois que ce sont les Juifs qui l'ont mis sur la croix? Ce sont tes péchés qu'il a portés sur la croix. C'est ce qui te sépare, c'est ton interprétation. Qu'il a mis sur la croix et c'est Dieu qui l'a crucifié. Parce que dans le ciel, il a fallu prendre une grande décision. Comment ces sacrifices qui ne fonctionnent pas, pour lesquels, qui sont offerts et néanmoins les gens et même les sacrificateurs, continuent à pécher. Il faut trouver une autre solution qui était déjà là avant la fondation du monde, parce que nous est dit que Jésus est un agneau immolé dès avant la fondation du monde. Il était sur la croix pour toi, pour te sauver de ces accusations. Cette culpabilité va tomber si tu viens à Jésus-Christ ce matin. Quand tu rentres chez toi, dans le silence de ta chambre, est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Même si tu as dit « je l'ai donné déjà », est-ce que tu vas la donner réellement? Est-ce que tu vas être prêt à dire « je veux suivre Jésus » C'est ça le baptême, c'est pour ça que nous baptisons par immersion. Parce que quand on symbolise ça, on déclare au monde, verbalement, mais aussi par notre corps. Parce que notre corps, c'est comme des mots. Un mot n'a pas de puissance à moins qu'il soit insufflé d'un sens, une sémantique ou d'une puissance que Dieu lui donne pour transformer. Et ta vie entière, ton corps, lorsque on baptise, on le met complètement sous l'eau et on le relève comme la résurrection de Christ. Parce que tu as déclaré verbalement et corporellement, que tu voulais renoncer à tout ce qui te t'est séparé de Dieu. Ces accusations, elles sont justes, elles sont vraies. Oui, c'est vrai que tu es coupable. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est grave ce que tu as fait. Mais c'est sans compter l'œuvre de Christ, qui est le seul qui peut te dire « je te pardonne ». Un prêtre ne peut pas absoudre, un pasteur ne peut pas absoudre, un ancien ne peut pas absoudre. C'est le Seigneur Jésus qui te dit « moi non plus je ne t'accuse pas ». Va en paix et ne pêche plus. Et donne la puissance de ne plus pécher. C'est ça l'évangile. C'est rien d'autre que je voudrais annoncer. Rien d'autre, pas des techniques de counseling, comme disent les Anglais, les Américains, de relations d'aide, de comment il faut aider la personne. Le seul moyen, c'est que l'Esprit de Dieu agisse pour que l'interprétation puisse tomber et la personne soit libre. Et dans l'interprétation, il y a ces accusations qui nous empêchent de connaître Christ. Heureux les simples en esprit, dit, c'est une des béatitudes dans Matthieu chapitre 5, le début du chapitre. Et vous en avez un au chapitre 9, un aveugle né. Alors là, il est vraiment le plus simple des plus simples. C'est l'évangile est fait pour ces gens-là. Je me rappelle le soir où j'ai déclaré publiquement que je voulais donner ma vie au Seigneur. C'était, pour ceux qui l'ont connu, le prédicateur Guigui, un gitan illettré. Mais alors, pour tenir debout devant sa prédication, il fallait avoir un soutien parce qu'on était tombé sur la chaise, n'est-ce pas ? Il y avait une puissance. Cet homme, Dieu l'a choisi, l'a racheté, alors qu'il allait tuer une femme pour voler, pour cambrioler sa maison. Le Saint-Esprit l'a convaincu de péché. Il est tombé à genoux. Il s'est repenti avant de commettre l'acte. Et il a décidé de rentrer et de consacrer sa vie à Dieu. Combien d'hommes et de femmes ont été transformés comme ça. Et ici, dans le chapitre 9, vous avez un aveugle qui ne comprend rien à la vie. Il ne comprend rien parce qu'il n'a pas pu jouir, il n'a pas tous les moyens qu'on met en place maintenant pour les malvoyants. Mais le Seigneur l'a rencontré. Et peut-être tu te dis, je ne comprends rien. Je ne comprends rien de ce qui se passe ici. Peut-être tu te dis, je ne comprends rien de ma vie, je ne comprends rien. Mais c'est bien. Ce qui est inquiétant, c'est si tu dis, je comprends. Mais si tu ne comprends pas, eh bien le Seigneur va venir vers toi. Et il veut te guérir de ton aveuglement. Et quand les pharisiens sont venus vers lui après pour avoir une interprétation, il leur a dit, mais je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je n'ai pas d'interprétation. Ben, c'est pour ça que le Seigneur a pu le rencontrer. Je n'ai pas d'interprétation. Mais on est là avec nos bagages d'interprétation. Il y a des églises où on explique aux gens que s'ils ne croient pas à leur interprétation du retour de Christ, alors ils sont dans l'erreur. Mais ces gens qui insistent sur un aspect théorique de la théologie et qui disent « ça c'est important », ils sont en train de construire de l'interprétation dans le cœur des gens et ils sont en train de les séparer de Christ. Que votre doctrine évangélique soit correcte ou pas, c'est de l'interprétation, c'est ce qui vous sépare de Dieu. Si vous avez la doctrine correcte, eh bien je vous dis bravo, parce que moi je ne l'ai pas. Mais j'espère avoir Christ. Et le seul que je veux avoir, c'est Christ. Je ne veux pas qu'il y ait d'interprétation. Il a guéri cet aveugle né. Il a dit aux pharisiens, vous êtes aveugles. Alors ça, leur interprétation dit, non, on n'est pas aveugle, on voit très très bien. Et c'est parce que vous voyez que vous êtes aveugles. Il y a dans les paroles de Jésus quelque chose que que l'aveugle n'aurait dit, je comprends rien alors. Je comprends plus parce qu'ils voient, ils sont aveugles, et moi parce que je voyais pas, j'étais pas aveugle. C'est trop dur, mais il s'en fichait de ça. S'il a entendu, la joie, c'était de dire maintenant je vois, n'est-ce pas? La même joie qui était chez la Samaritaine. Chapitre 10, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, il aime ses brebis, il aime parce qu'il est le bon berger. Mais comme il a donné le vin aux noces de Cana, il était lui-même la vigne. Comme il est le bon berger, il est devenu l'agneau qui a été immolé, qui a été crucifié. Il n'y avait pas de séparation entre le message de Christ et ce qu'il était. Il y a cette communion qui est décrite dans Jean 17, où il prie à son Père et il dit qu'il soit un comme nous sommes un, qu'il soit en nous et qu'on soit en eux, qu'il n'y ait pas de séparation, qu'il n'y ait pas d'interprétation. Lazare, dans le chapitre 11, lorsqu'il est mort et que Jésus le ressuscite, il y avait la mort qui le séparait. Et c'est peut-être ton sentiment ce matin. J'ai la mort à l'intérieur. Je suis mort. La puissance de Dieu, c'est la puissance de la résurrection. Ce matin, tu peux tomber à genoux chez toi et dire, Seigneur, donne-moi la vie. Enlève cette mort qui me sépare de toi. Tu me demandes de vivre une vie pure, je ne le peux, parce que je suis mort à l'intérieur. Tu me demandes de ne pas faire ceci, mais je ne peux pas ne pas faire ça. C'est ça que Dieu veut entendre. Au lieu de dire, oui, oui, Seigneur, t'inquiète pas, je vais changer, j'ai ce problème actuellement, mais ça ira mieux après. Déclare que tu es mort pour qu'il puisse te donner la vie, la résurrection. Tout le reste de l'évangile de Jean, c'est cette réalisation de ce qui est écrit dans Jean chapitre 1 sur la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est grâce à la croix, grâce à la mort et la résurrection de Christ, qu'a anticipé Marie de Béthanie lorsqu'elle a répandu au chapitre 12 le parfum aux pieds de Jésus. Elle avait compris ce que les disciples n'avaient pas compris. Et peut-être ce matin, tu as compris quelque chose de Christ. Tu as découvert Christ. Et la Samaritaine aurait fait la même chose. L'aveugle né, le paralytique guéri, tout cela, ils seraient venus, ils auraient mis aux pieds de Jésus le parfum. Les disciples ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas connu ce que les autres avaient connu. Les disciples n'étaient pas sélectionnés comme une élite. Il a sélectionné Judas Iscariote comme étant un de ses disciples. Marie de Béthanie n'était pas disciple reconnue, n'est-ce pas? Elle était disciple de Jésus. Chacun des disciples de Jésus qui était reconnu disciple avait une interprétation entre Jésus et eux. Simon-Pierre avait une grosse interprétation qui est tombée à la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est venu, les a remplis. Et le Saint-Esprit fait l'œuvre de la croix du calvaire et de la résurrection dans nos vies. Ce matin, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous libérer de toute interprétation, de tout ce qui vous sépare de l'amour de Christ, de tout ce qui vous sépare de la puissance de son message, de tout ce qui vous sépare de l'Évangile comme étant la puissance de Dieu. Le Seigneur veut faire cette œuvre. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que je le veux? Est-ce que je suis prêt? Si on est prêt, eh bien, il le fera. Si vous voulez le faire, venez le dire à quelqu'un de l'Église, un des anciens ou une épouse d'ancien ou quelqu'un qui est un pilier dans l'Église. Quand je dis pilier, c'est quelqu'un qui est solide en Christ. Vous allez lui dire, je veux connaître ça. Je veux connaître le Saint-Esprit. On priera pour vous. Mais faites-le comme une démarche personnelle. Je veux le faire. Je veux déclarer aussi que je le veux par le baptême. Ça sera l'occasion de le dire autour de moi et d'officialiser. On va juste fermer les yeux pendant un moment et se donner à Christ ou se redonner à Christ. Seigneur, c'est tellement merveilleux l'évangile de Christ. Cet évangile qui libère, cet évangile qui rend les hommes et les femmes libres. Seigneur, nous avons sur notre devise les valeurs de la République qui sont liberté, égalité, fraternité. Sont les vertus, les valeurs de Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut apporter la liberté, l'égalité et la fraternité. Il n'y a que Christ qui peut nous libérer des interprétations, de tout ce qui nous sépare, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies. Et ce matin, je te demande que des murailles tombent de ma vie et de la vie des frères et sœurs. Que Seigneur, des interprétations tombent pour que la communion avec Jésus-Christ soit parfaite, pour qu'il n'y ait pas de séparation et que la communion, le Saint-Esprit puisse se répandre dans nos vies. Fais ce miracle, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut le faire. Nous sommes perdants, nous sommes perdus sans toi. Et c'est à toi que nous voulons venir. Dans le nom de Jésus. Amen.